Je vais commencer par citer Martin Heidegger dans Acheminement vers la parole. Le premier texte s'appelle La parole. Il dit ceci. L'être humain parle. Nous parlons éveillés. Nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole, et que nous ne faisons qu'écouter ou lire. Nous parlons même si.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio Delta FM, sur le 90.2 FM, radio du lycée pilote innovant international de Jonéclan, dans la série Éthique et Déontologie. Nous allons parler d'un sujet d'actualité qui fait débat, les mères porteuses, appelées aussi gestation par autrui ou encore maternité par substitution. Nous allons laisser tout de suite la parole au docteur Dupont qui a étudié le sujet et va nous l'expliquer plus clairement.
Bonjour, eh bien en fait, c'est assez simple. C'est le fait qu'une femme porte et mette au monde un enfant conçu avec des gamètes du couple qui élèvera l'enfant lorsque la grossesse est médicalement impossible dans le couple. À la naissance, la mère porteuse remet l'enfant à la famille sans qu'il y ait adoption. Mais même si cela peut rendre service, c'est aussi très mal vu dans certains pays, comme en France, où la loi de bioéthique interdit catégoriquement ce procédé.
Excusez-moi, je vous coupe, mais pourriez-vous nous expliquer ce que dit la loi bioéthique au sujet des mères porteuses ?
Eh bien, cette loi de bioéthique qui date du 29 juillet 1994 et qui a été révisée en juillet 2004, fixe les conditions du don, de l'utilisation et de la conservation des éléments et produits du corps humain. En clair, cette loi estime que la gestation par autrui est contre nature. De plus, la loi punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende cette démarche.
Eh bien, merci Monsieur Dupont de nous avoir éclairci sur le sujet. Dans un court instant, nous allons retrouver le sénateur Jean Leroux, mais pour le moment, nous allons écouter un nouvel avis médical, celui de l'infirmière du lycée pilote innovant international sur ce sujet.
Bonjour, quel est votre avis sur la légalisation des mères porteuses ?
Je suis très partagée sur le sujet. Car même si je n'ai pas d'opinion très arrêtée sur la pratique de la gestation par autrui, je pense qu'il est urgent de légiférer au sujet des mères porteuses. Car même si cette pratique est interdite en France, elle existe. Et je pense qu'il vaut mieux définir un cadre précis permettant d'éviter les dérives possibles, comme les propositions d'utérus à louer que l'on peut voir fleurir sur Internet. En effet, des pays comme le Canada ou l'Angleterre ont préféré légaliser les mères porteuses, définissant ainsi un cadre ayant pour but de protéger la mère gestatrice, l'enfant à naître et les futurs parents, afin de ne pas arriver à des situations extrêmes comme en Inde, où la pratique des mères porteuses se fait sans contrôle et sans éthique, en profitant de la détresse des populations les plus démunies pour instaurer entre guillemets un commerce du ventre. Les lois en vigueur dans ces pays ont pour but, d'une part, de définir les conditions requises pour devenir parent bénéficiaire et pour devenir mère porteuse avec délivrance d'un agrément pour l'ensemble des intervenants. Elles définissent également le cadre de la mise en relation des couples demandeurs avec les gestatrices, ainsi que les conditions d'accompagnement de la grossesse. Elles établissent également les règles relatives à l'établissement de la filiation de l'enfant. Et pour finir, elles définissent un cadre juridique pour toutes les questions financières. Toutes ces lois ont pour but de protéger l'ensemble des acteurs et de prévenir tous les litiges futurs. Cependant, la légalisation des mères porteuses ne peut pas résoudre tous les problèmes liés à la gestation par autrui, et cette pratique engendrera toujours des drames humains.
Mais quels sont les risques pour les mères porteuses et les familles ?
Sur le plan physique, les risques pour les mères porteuses sont les mêmes que pour toutes les autres femmes qui portent un enfant pour elles-mêmes. Ce sont ceux liés à la grossesse et l'accouchement. Par contre, sur le plan psychologique et émotionnel, les risques sont plus difficiles à évaluer. Il faut savoir que la mère porteuse va vivre 9 mois avec un enfant qui va vivre et bouger en elle, que son corps va se transformer, que sa vie sociale, professionnelle et amoureuse vont en être bouleversées. Cela va forcément avoir un impact sur elle. On peut également se demander quelles seront les conséquences pour son entourage, à savoir son conjoint ou ses enfants s'il en a déjà. En résumé, je dirais que pour l'ensemble des acteurs, mères porteuses, enfants à naître et futurs parents, les difficultés psychologiques à venir sont difficiles à évaluer et dépendent aussi du contexte psychologique de chacun au moment des faits.
Faudra-t-il faire appel à davantage à l'adoption ?
Actuellement, en France, les procédures d'adoption restent très longues et peu d'enfants sont adoptables sur le territoire français. Et il faut souvent aller de plus en plus loin. Or, les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants ont déjà souvent un parcours long et douloureux, fait d'espoir et de désillusion, d'insémination et de fausses couches. Ils n'ont plus la patience d'attendre et se pose aussi pour eux la question de la possibilité de la filiation génétique avec au moins l'un des deux parents rendu possible par la gestation par autrui. De plus, je ne suis pas sûre que la démarche psychique, l'état d'esprit soit le même dans les deux cas, car d'un côté, on a plus la notion d'un don d'une famille à un enfant et de l'autre côté, la notion d'un don d'enfant à une famille.
Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec l'infirmière. Il est difficile d'émettre un avis sur ce sujet, car il présente des avantages et des inconvénients. Mais je rajouterais que 53% des Français seraient pour la légalisation des mères porteuses si cette pratique est bien encadrée.
Eh bien, j'espère que tout cela a pu éclairer nos auditeurs. Et nous allons maintenant laisser la parole à monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur, vous insistez sur le fait que cette pratique de la gestation par autrui devrait être légalisée, c'est bien ça ?
Tout à fait. Pourquoi empêcherait-on un couple d'avoir un enfant ou même de fonder une famille ?
C'est certain, mais l'adoption existe également pour cela.
Oui, mais c'est une pratique qui est dure à supporter. Avant l'adoption, les démarches sont interminables. Les parents sont suivis constamment dans leur vie professionnelle, chez eux et même dans leurs relations. Après l'adoption, la famille est contrôlée dans les années qui suivent. Certes, ce n'est pas le plus dur, mais après toutes les démarches faites par les parents, lorsque l'adoption a été réalisée, le désir du couple est de profiter de leur enfant sans être dérangé. La gestation par autrui éviterait donc toutes ces démarches.
Non, je ne suis pas d'accord. Si on laissait trop de liberté, si les démarches pour faire appel aux mères porteuses n'étaient pas surveillées, c'est ainsi que se développerait un marché d'enfants. De plus, il y a des risques que la mère porteuse fasse une fausse couche, ou tout simplement qu'elle se désiste et veuille garder l'enfant. Risque que l'on ne trouve pas avec l'adoption. Même si généralement les démarches sont longues, lorsque tous les papiers sont signés, l'adoption est certaine.
Ah, nous avons monsieur Lefebvre qui se prononce quant à lui contre cette pratique qui vient de réagir à ce que nous disait monsieur le sénateur.
Eh bien, pour en revenir sur le propos de monsieur Lefebvre, bien entendu, il faudrait que la pratique soit surveillée, encadrée et ainsi...
Mais même encadrée, il serait impossible d'éviter tout risque de marchandisation, alors que ce risque n'existe pas avec l'adoption. Et ce procédé permet aux enfants orphelins de trouver une famille.
Mais d'autres pays l'ont déjà légalisé et ça fonctionne très bien.
Certes. Mais pour la plupart de ces pays, il n'existe aucune loi qui l'interdise. Mais le problème n'est pas là. Le véritable problème est, comme l'a dit Monsieur Dupont, cette pratique est contre nature. Et quand on pense aux conséquences que cela peut avoir sur la mère porteuse...
Oui, mais ça, c'est le choix de la mère porteuse. Si elle fait cela, c'est qu'elle éprouve le besoin d'aider une famille, de leur permettre d'avoir un enfant, lorsque cela est impossible pour eux.
Ou alors, la mère porteuse a tout simplement besoin d'argent. Et sachant que cette pratique rapporte généralement entre 10 000 et 20 000 euros, on pourrait se mettre à exploiter des femmes en situation précaire. Et puisqu'il y a un dédommagement, que l'on paye pour avoir un enfant. Est-il imaginable de fixer un prix à un enfant ? Je suis désolé, mais les mères porteuses ne sont pas des ouvrières. Porter un enfant n'est pas un travail, c'est un désir. On ne pense qu'au couple qui reçoit l'enfant, pas à la mère qui porte l'enfant 9 mois, 24 heures sur 24.
Oula, la tension monte ici. Je vais essayer d'apaiser tout ça en vous passant un morceau de Massive Attack, Teardrop, dans lequel les basses représentent les battements de cœur d'un bébé, et on se retrouve juste après avec un nouvel invité.
Delta FM, du rock au rap ou à la techno, en passant par la variété, toutes les musiques que vous aimez sont sur Delta FM.
Pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons aujourd'hui des mères porteuses en compagnie de monsieur le docteur Dupont, de monsieur Lefebvre ainsi que du sénateur Jean Leroux. Et tout de suite, nous accueillons madame Fouchot qui a fait appel à une mère porteuse et nous explique comment elle en est arrivée à utiliser cette pratique.
Bonjour, eh bien moi et mon mari ne pouvions avoir d'enfants. Nous avons donc cherché à adopter, mais nous avons rencontré quelques problèmes. Ensuite, nous avons entendu parler des mères porteuses et trouvions cette pratique plus simple et plus rapide.
Excusez-moi, vous trouvez vraiment cela plus simple ? Et pouvez-vous nous dire comment vous avez trouvé la mère porteuse ?
Via Internet, nous avons trouvé une mère porteuse qui a accepté de porter notre enfant. C'est la seule avec qui nous avons accroché. C'était une mère célibataire qui avait déjà un enfant, Elle travaillait comme auxiliaire de vie auprès d'enfants handicapés. Elle nous a jamais parlé d'argent. Ses motivations étaient claires. Elle désirait nous aider. Après notre première rencontre, moi et mon époux lui avons proposé une somme de 15 000 euros, notamment pour l'indemnisation des frais de maternité. Ensuite, avec la mère porteuse, nous nous sommes rendus à Londres pour procéder au prélèvement des gamètes de mon mari ainsi que de moi-même. Hélas, à l'accouchement, la mère porteuse a fait une hémorragie et s'est fait retirer l'utérus. Le bébé a pu naître sans problème et vit normalement, mais nous nous sentons un peu coupables. Mais sinon, oui, je pense que c'est plus simple et surtout beaucoup plus rapide.
Et vous avez gardé des contacts avec la mère porteuse ?
Oui, oui, tout à fait, nous nous voyons régulièrement.
Et la mère porteuse, elle le vit mal cette situation ?
Non, non, pas du tout. Elle est contente d'avoir pu nous aider et ne regrette rien. De plus, elle avait insisté sur le fait qu'elle ne cherchait pas à avoir d'autres enfants.
Et votre enfant, est-il vraiment considéré comme votre fils par tout le monde ?
Eh bien, notre famille le considère comme notre fils, même si certains ont eu du mal à approuver la manière dont nous sommes parvenus à l'avoir.
Je vous remercie, Madame Fouchot, pour votre témoignage qui nous a apporté beaucoup de précisions sur les déroulements de la naissance d'un enfant par le biais de la gestation par autrui.
Excusez-moi, avant que l'émission se termine, j'aimerais ajouter quelque chose que ni moi ni infirmière ont pensé à préciser. C'est au sujet des couples homosexuels. La gestation par autrui n'est pas seulement utilisée par les couples stériles, mais aussi par les couples homosexuels qui, dans certains états des États-Unis, sont acceptés. Ils sont d'ailleurs en forte demande, car je pense qu'il faut spécifier que ces couples ne peuvent avoir recours à l'adoption et qu'ils sont donc obligés de passer par les mères porteuses s'ils veulent fonder une famille.
Bien, merci. Nous allons donc finir cette émission sur la parole de notre docteur, M. Dupont, et remercier tous nos invités d'avoir participé à cette émission et d'avoir pu informer tous nos auditeurs. Mais juste avant, si vous avez été intéressé par cette émission et souhaitez obtenir plus d'informations, des sites web tels que grossesse.infobébé.com, des journaux comme Le Monde ou encore des magazines comme Elle qui a interviewé Sylviane Agacinski sont de bonnes sources de renseignements. Et donc, bonne journée à vous tous et je vous remercie de nous avoir écoutés sur la radio Delta FM 90.2 du lycée pilote innovant international de Jaune-Éclan.
Je vais commencer par citer Martin Heidegger dans Acheminement vers la parole. Le premier texte s'appelle La parole. Il dit ceci. L'être humain parle. Nous parlons éveillés, nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole et que nous ne faisons qu'écouter ou lire. Nous parlons même si.